There's one question.
Yes. Oh, I think they have to get you the microphone. Although I understand you, Megan.
Yeah, but then there's no translation.
He's gone?
No. If there's no mic, there's no translation.
That's what I was saying, to wait for the microphone, but I didn't see him. Oh, maybe come up to that one.
Yeah. I just want to check. Do you have a guideline on the UPR process itself? Do we have a guideline, like a harmonized guideline on the UPR process itself? Because there are so many things that has gone on around right now, but is there a guideline that you can share with the government partners? Because the last one we did in Eritrea, there was no guideline. We had to use what was done in various countries. So do we have something put together, like the guideline for developing the Universal Periodic Report, the process, the five stages that actually you discussed with us the first day? Do we have something like that that we can
Yes, there's a couple of things. Some are actually in your on the disk that Monique prepared for you. They have the ones that I believe Amnesty and Save the Children have used. But then there's also simple ones that UPR Info has that's just a chart that also shows that. And then I told you I would also come up with the five phases, different steps in each one, and I could also prepare that for you. But there is material based already done that is on the disk in your yellow folder. If you still have that yellow folder. But no, it's a simple five stages, and it's a way to move forward. Up top, there might be a button.
Okay.
Now you can rock it.
Okay, thanks. I wanted to find out how you balance, I mean, using the tool of role play, how you can balance between focus on costume and on the content. Because in Zambia, we also have the UN model, and it's open to most of the high schools in the country, and they have one big general assembly, you know, in November next month. And the focus, you know, young people like creativity, the focus is more on the costume, how to look authentic, whatever country they are representing. But the content is very shallow. There's very little research. There's very little knowledge on the position of, you know, the country they are representing. So teachers have a problem in trying to balance the show to the actual learning and the content. Or maybe at that stage maybe the content is not important. Is it just the young people being aware that such things happen? I'd like to know how you can balance that.
Sure. That's a great question. It is definitely learning about other cultures, and most students identify that by the costume or traditional clothes. Yet I realized in my education process and what I was teaching that I couldn't accept that, that they're just so worried about, you know, is this what someone in Thailand would wear? So what I thought of was to actually make it rooted to what's really going on and things that they could watch and see, and to tease them that, you know, in the UN, everybody dresses the same, basically, except for me and a couple other people who wear what they want to. You know, that everybody from Africa is wearing the suit and tie, and everyone's from Asia is doing the same thing. They're all dressed one way anyway. But more importantly, what is the human right? And more importantly, what is the mechanism? So if they learn what human rights are, and more importantly, how the mechanisms function, then that's the most important part of MUN, that they no longer then go, what is this General Assembly or what is this human right? But they actually participate and defend the right, and more importantly, participate in the role play so they know what role an NGO plays and what role a government plays and what role, you know, states play. And so the thing that worked out best for me is we also had a really bad teacher who loved teaching MUN who just never would let go of it. So we came up with something new. We did a model UN Human Rights Council. And the model UN Human Rights Council is also a little bit more manageable. There are 47 countries. Not 192, but 47. So that's good. Also, in the Human Rights Council, they have many resolutions that are written. So we would let them write different resolutions and debate in those small groups. So you could have three or four people per each delegation and talk about all the issues, climate change, food crisis, anything they wanted to. So it's also relevant and current, things they take from the newspaper that day. But also, people love in the UN, the model UNs, there's a crisis that develops overnight. So it's it's exciting. How do we solve this crisis where there's bloodshed and things happening? So the good news is the Human Rights Council also has special sessions. So you can, in your model UN, you can have a model UN Human Rights Council with all the issues that used to be under the General Assembly. But more importantly, you can have a special session if 27 countries vote for it. So then all of a sudden, they're turned on to this whole new part of the special sessions that take place, and they've had over 20 of them in just, you know, the first 6 years. And then last but not least, the UPR part really allows students to study a specific country. And then they actually realize what's going on in their own country that they never knew. So depending on the class I have, I do Model UN Human Rights Councils with resolutions, but more importantly, also special sessions, because they like that enthusiasm of this just developed, what are we going to do? But the UPR has been great because they then read the three core documents. They then sometimes, the eager ones, instead of working on how to fix their hair, the eager ones really actually focus on watching the actual UPR. But then I always point out to them, that was last session. What will the next one look like? So that forces them to update what are the current issues in the country and what they believe. So I found it to actually be really effective, and they really do participate more actively than something abstract with the UPR, with the old model UN, where they spend most of their time looking up on the encyclopedia what the country is and was historically, and not what are the rights we're talking about, so they learn and know the rights and defend them, and also how the mechanisms operate. And the best part is I've taken students doing role plays in class and then brought them to Geneva the next summer, and Monique has been great enough to give them accreditation, and they come through EIP, and then they're like, oh, look at this treaty body. We do model UN CEDAWs for Women's Rights Month. They're like, this was just like what we did at home. We've been sitting the same way. So they're not intimidated about CEDAW and the structure. They're actually, this is great. I've already done this role play. I know what people do. And they actually look at it more keenly as if they already understand the process, as opposed to just sitting there going, what is it? Who's that? What's going on? So it's a really good preparation as well to understand what happens in the real UN settings.
Voilà, Abdoulaye Sow de la Mauritanie. Moi, j'aimerais attirer attention sur la question qui a été soulevée par notre collègue de la Zambie, à savoir qu'au niveau de l'éducation des droits humains, j'ai remarqué en Afrique qu'on a peur d'utiliser les langues nationales. Dans toutes les cultures humaines, il y a un mot pour dire dignité humaine. Il y en a partout. Moi, dans ma culture, on dit celui qui n'éprouve pas la honte n'est pas un être humain. Donc la honte est l'indicateur même de la dignité de l'individu. Donc nous, ce que nous voulons dire, c'est que quand on utilise les populations qui ne savent pas lire et écrire dans les langues officielles, telles que le français, telles que le chinois ou telles que l'arabe et tout cela, quand on leur parle dans leur langue, ils comprennent. Torturer quelqu'un, ça existe dans toutes les langues. On peut dire aux individus qu'il est formellement interdit, il est interdit de tel et tel. C'est que dans la plupart des cas, quand on fait entre le formel et le contenu, moi je sais ce que j'ai dit. J'ai envoyé des documents à Monique dans lesquels nous utilisons la contre-argumentation culturelle pour délégitimer dans l'imaginaire populaire des femmes mauritaniennes la pratique du gavage, des mutilations génitales et du truc. Il faut que les gens aient le courage d'utiliser leur langue nationale, de puiser dans leurs ressources culturelles des arguments pour lutter. Seulement, la plupart des pays africains, les constitutions sont écrites dans les langues que les populations ne comprennent pas. Moi-même qui ne suis pas juriste, j'entends des fois, on dit aliénat 25, décret 45, constituant tel. J'ai compris, j'ai entendu ce que les gens ont dit. Mais en réalité, si je n'ai pas un ami juriste pour me commenter qu'est-ce que ça veut dire, je n'aurais rien compris. Jusque-là encore, la question de l'enseignement des langues pose problème en Afrique, et la plupart des cours qui sont donnés simplement aux droits humains s'adressent à une petite minorité, s'adressent à une petite élite qui vit dans les grands centres urbains en Afrique. Donc il nous faut revoir toute cette stratégie de communication sur la question des droits de l'homme en sachant que par l'usage des langues nationales, par des manuscrits très petits et très réduits, qu'avec de petits moyens, on peut vraiment aller à l'essentiel. Je vous remercie.
No, that's a good point. I remember when I came to EIP as actually as a participant the first time, and we had a talk from Elena Ippoliti talking about translating the UDHR. So they were trying to make sure that the UDHR was going to win the Guinness Book of World Records as the most translated document. Their big competition was the Bible. And so what we did was we took the UDHR back, and I also took it as an assignment for my class, and we translated the UDHR into Olelo Hawaii, into the Hawaiian language. And that was very important because then it was, what do these concepts mean in the cultural context of the people of Hawaii? So that was great. And then we also, it wasn't just an exercise in Hawaii to better understand these principles, but more importantly, we then submitted it to the UN, and now it's on the website of the UN where it's translated the UDHR in all the different languages. So that was very valuable. Another thing we did was also the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. We're working on that, on its fifth anniversary now, to translate that into the Hawaiian language. But another good point you raised is not getting caught up with the legalese. So what I also do when we do the role plays is I simplify all the international treaties, ICCPR, CERD, UDHR, CRC, into just three or four words instead of an entire paragraph. And we've done that, and then the children are great. I mean, they pick it up and they're like, isn't this a violation of Article 6? And they sound like lawyers, and everybody's like, how long have you taught them this? And you're like, just last week. You know, I just gave them the simple version, and they know it, and then they use all the articles, and they've seen it on a role play. So, you know, they're quoting all these different things and throwing them back and forth. And as some of the teachers go, which one was Article 18 again? Is that this? You know, so the children pick it up if you make it simple and just regular language. So we've done both, putting it into the local language, but then also just simplifying from legalese into what it does mean, and they have no problem with that. So that's been very valuable.
Oui, merci. La question que tu posais, Abdoulaye, est vraiment fondamentale. Et ça a été la première réflexion de l'école Instruments de Paix quand elle a commencé à travailler sur les droits de l'homme. Le premier travail qu'elle a fait, et ça a été fait à l'Université de Genève, par des chercheurs. Yves, d'ailleurs, faisait partie de l'équipe pédagogique sous la direction du professeur Massaranti, a été de traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme en un langage simplifié, accessible aux maîtres et aux élèves. Ce travail, on y a consacré beaucoup d'années, il a été diffusé partout, il a même été repris par les Nations Unies. Au début, on nous a littéralement insultés en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ce travail. » Et là, je reviens au fondateur de l'EIP. Il a dit « Mais les droits de l'homme, c'est d'abord à l'école. » Donc, il faut qu'on trouve un langage pour faire passer ce message. Donc, ce travail a été, toute cette recherche qui a été entreprise dans les années 70 à l'université de Genève, a été ensuite repris par les Nations Unies. Et vous le trouvez dans, je crois, l'ABC des droits de l'homme. Mais je pourrais vous retrouver la référence. Et ça, c'est le travail d'École Instruments de Paix. Parce que c'est absolument fondamental. Je voulais dire à Abdoulaye que des manuels et guides pédagogiques ont été produits dans les langues nationales. Alors, beaucoup par l'École Instruments de Paix et par les sections nationales, mais au Burkina Faso, ils travaillent sur l'alphabétisation avec des traductions dans les langues nationales de guides pédagogiques en Guinée et au Cameroun. Je crois qu'au Sénégal, ils ont également fait dans plusieurs langues nationales la traduction de ce matériel pédagogique. Ça existe, mais évidemment, ça ne sort pas des ministères de l'éducation. C'est encore les ONG qui produisent ça. Et il serait très important de faire du lobby auprès de vos ministères de l'éducation pour que les langues nationales, pour qu'ils accordent un petit peu plus d'importance aux langues nationales. Je me souviens d'une conférence dans le cadre de l'Organisation de la Francophonie où les ONG ont demandé aux chefs d'État africains d'accorder une importance aux langues nationales, mais ils n'ont absolument pas repris cette idée. C'était absolument scandaleux. Néanmoins, il faut continuer de faire pression et peut-être qu'un jour vos ministères de l'éducation accorderont l'importance dans le cadre de l'alphabétisation et de l'éducation. Bon, peut-être Kif, tu dis un petit mot par rapport au travail que vous avez fait ou avec Massaranti.
Merci. Oui, écoutez très rapidement parce que ce serait une longue histoire, mais la base du travail était un travail pédagogique qui a été fait, enfin de recherche qui a été fait ici à Genève dans l'optique des études piagétiennes sur les stades de développement des enfants et le fait que le vocabulaire évidemment d'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans et tout va évoluer et va être différent. Et comment est-ce qu'un enseignant peut saisir, avoir conscience en gros de ce vocabulaire pour l'utiliser lui-même de façon correcte. Ce qui fait qu'un des problèmes que l'on a eu après avec les traductions... Alors, il y a eu deux problèmes, comme l'a dit Monique. Le premier, c'est que les juristes considéraient qu'on n'avait pas le droit de toucher au texte juridique. Avec un élément qui était correct, et nous l'avons toujours diffusé, donc on a fait à l'AIP, on était très clair là-dessus, on devait toujours le diffuser en parallèle du texte juridique. Toujours. Là, les juristes avaient raison, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prétendre que ce texte est un texte juridique alors que c'était uniquement une sorte de traduction, une traduction de français en français, mais donc en français simplifié pour s'assurer qu'on comprenne bien quel était le sens. Donc en fait, il fallait le considérer comme étant un commentaire et non pas comme une traduction. Et là où les juristes avaient un point, c'est que, et on l'a vu, on a eu ce problème-là, de nouveau d'enseignants disent « Oui, mais le texte juridique, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qu'il faut que je donne aux enfants, c'est le texte simplifié. » Or, du coup, alors là, par contre, on passe dans un processus où on trahit le sens, parce qu'on ne donne pas l'instrument juridique à la personne. Parce que, évidemment, si après vous devez l'utiliser, il y a eu un choix politique d'utiliser tel mot et pas tel autre mot, ça a un sens. Ça a un sens juridique. Et là, on perd le sens juridique si on n'a pas le texte à côté. Donc, ça devait bien être un accès au texte lui-même. Et donc là, on a eu plein de batailles là autour, puisque certains voulaient l'utiliser sans le texte juridique, ou d'autres juristes disaient non, on n'a pas le droit de faire ce genre de traduction. Ensuite, quand il y a eu des traductions dans d'autres langues, nous avons toujours insisté qu'il fallait du coup s'appuyer sur des recherches qui soient un peu similaires, mais qu'il y ait un travail de recherche au préalable sur le vocabulaire. Parce que tel mot qu'on a utilisé en français, parce qu'on avait découvert, parce qu'ils font des études de langage des enfants, on fait des éléments statistiques, etc., etc., du coup, on arrive, et puis c'est quelque chose qui évolue, je veux dire, le vocabulaire de l'époque serait plus exactement celui qu'on utiliserait aujourd'hui. Mais donc, il y a un travail de recherche linguistique au préalable. Si on le fait pas et qu'on se contente juste de traduire, évidemment, tel mot qu'on utilisait à tel moment chez les enfants à Genève, en plus de ça, parce que c'est des recherches basées sur Genève, donc c'est pas sûr que vous allez à Lille ou à Paris, vous auriez exactement le même vocabulaire. Si vous le faites pas, puis que vous le traduisez après en anglais, et puis ensuite de l'anglais, on va faire une traduction portugais, puis du portugais, on va le faire ensuite dans une langue d'une population d'Amazonie, par exemple. Vous voyez comment est-ce qu'on a totalement quitté le travail de base qui était de regarder comment est-ce que des gens utilisent un vocabulaire et de le traduire dans leur vocabulaire à eux. Donc, c'est une démarche qui malheureusement a été un peu perdue, elle est plus du tout suivie. Je pense qu'elle serait intéressante à reprendre, mais toujours en lien avec des professionnels qui, eux, travaillent sur l'utilisation de la langue. Donc, il faut le faire avec des personnes. Si vous le faites chez vous, vous pouvez trouver une autre démarche, mais il faut toujours que ce soit avec des gens qui connaissent et pas un travail superficiel. On a vu, pas forcément pour les droits de l'homme, on a vu des textes qui sont simplifiés en langage courant pour les banlieues en France. Puis ça c'était très popularisé, oui, sauf que c'était des gens hors des banlieues qui imaginent comment est-ce qu'on parle dans les banlieues et qui ensuite font ceci. Donc on est totalement à côté de la plaque, c'est même assez insultant pour les gens qui vivent dans les banlieues parce qu'ils n'ont pas forcément un vocabulaire si différent que ça. Donc il y a un travail à faire sur le vocabulaire des jeunes, sur des choses comme ça, et ça doit être fait avec des sociologues, avec des linguistes. Si on le fait de façon comme ça en amateur, eh bien on envoie des faux messages et finalement on n'est pas en train d'aider à... Parce que ce qui est intéressant pour nous, c'était de permettre à ce que ces notions qui sont dans le texte de la déclaration soient appropriables. C'est ce processus d'appropriation qui doit être fait. Donc si on met de mauvais instruments, on envoie un mauvais message et justement on ne permet pas de s'approprier de ses droits et on quitte la démarche parce que pour nous, c'était de nouveau le fait que, et ça c'était tout le travail qui a été initié par Jacques Mulet-Allaire et poursuivi après au sein du CIFEDOP, c'est que les droits fondamentaux sont liés à des éléments de droit et à des institutions. Sinon, on fait simplement de la communication. et du marketing. Et ça, c'est ce que nous ne voulions pas.